Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, épître aux Éphésiens chapitre 6. On va surtout lire les versets 10 à 13, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors même si notre pays et plusieurs pays à travers le monde, depuis la Seconde Guerre mondiale, vivent dans une paix relative, on sait que les événements actuels, les événements géopolitiques, suscitent de nombreuses craintes chez beaucoup de personnes. Hein, la crainte peut-être d'un conflit, encore une fois, à plus grande échelle. Et cette semaine, en relation à cela, j'ai lu un article d'après un sondage qui venait d'être fait, qui révélait que 17% des Français seraient prêts à prendre les armes pour défendre le pays si le pays était attaqué militairement. En comparaison, en 1939, hein, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation en France avait appelé 5 millions d'hommes à rejoindre l'armée, à se battre contre l'ennemi qui avait envahi le territoire français, et cela représentait 12% de la population de l'époque. Mais imaginez un instant si les gens à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avaient décidé d'ignorer la réalité de ce conflit. En se disant, bon, ça ne nous concerne pas, c'est pas pour nous, c'est pas ici, ça ne me concerne pas. D'ignorer les conséquences aussi de répondre à l'appel de la mobilisation. Imaginez un instant si aucun citoyen n'avait donc répondu à cet appel, si aucun citoyen n'avait même mis en place tout le réseau de résistance qu'il y a eu pendant cette triste partie de l'histoire de notre pays. On peut imaginer ce que ça aurait pu être. On aurait pu imaginer quels en auraient été les résultats si l'armée française aussi, et plutôt que l'armée française, plutôt ses dirigeants, si les dirigeants n'avaient pas sous-estimé l'ennemi ou les stratégies de l'ennemi, quelles en auraient été les conséquences. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que voilà, ça s'est produit, et l'histoire s'est ainsi déroulée. Mais même si tout cela, ça relève un peu de l'hypothétique, et si. Ce qui est vrai, ce sont ces faits historiques, et ces faits historiques qui doivent aussi nous faire réfléchir, même pour nous en tant que chrétiens. Vous aurez remarqué ce matin qu'on a chanté des chants qui, peut-être pour certaines personnes, oula, c'est des chants guerriers, ça parle de combat, ça parle de lutte, ça parle d'ennemis, etc., etc. Mais le fait est que, en lisant et en étudiant la parole de Dieu, il est impossible de réfuter la réalité d'une guerre spirituelle qui existe depuis l'aube de l'humanité, depuis la chute dans le péché de l'humanité. C'est une lutte spirituelle, c'est une guerre spirituelle qui fait rage entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Depuis des siècles et des siècles, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ignorent cette réalité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens même ignorent ou choisissent d'ignorer la réalité de ce combat, la réalité que c'est un combat dans lequel ils ont été appelés. Il y a un ordre de mobilisation dans les Écritures par rapport à cette lutte spirituelle, par rapport à cette guerre spirituelle. Mais malheureusement, comme j'ai dit, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens choisissent d'ignorer cela. Et c'est pour ça que je voulais faire un peu cette comparaison par rapport à ces statistiques, par rapport aux faits historiques de l'histoire de notre pays, et de se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si les gens avaient refusé de répondre à l'appel de mobilisation? Qu'est-ce qui se serait passé si, effectivement, les états-majors, les décideurs, n'avaient pas sous-estimé la puissance de l'ennemi, sa stratégie, etc. Mais en cas de conflit, à votre avis, qui est le plus à même de tomber au combat? Celui qui a été préparé, celui qui a été équipé, ou celui qui a choisi d'ignorer la réalité de ce combat? Et c'est ici précisément la mise en garde que Paul adressa aux Éphésiens, les appelant à se préparer à ce combat spirituel, en se fortifiant, en s'armant, mais surtout, et ça va être l'objet de ce message ce matin et vraisemblablement de plusieurs messages sur les dimanches suivants, mais de comprendre qui est l'ennemi et de comprendre les stratégies de l'ennemi, de comprendre sa nature afin de pouvoir être efficace dans cette lutte. Comme Paul le mentionne ici, nous avons à lutter contre plusieurs entités malveillantes, mauvaises. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais derrière tout ça, il y a là aussi, comme dans toute armée, il y a un chef. Il y a un chef qui donne les ordres. Il y a un chef qui établit la stratégie. Ne vous y trompez pas. Certains chrétiens, par manque d'enseignement biblique, de formation spirituelle, s'illusionnent peut-être en croyant que une fois chrétien, une fois sauvé, plus rien ne va troubler leur vie. D'autres se croient à ce moment-là invulnérables. Ils se croient à l'abri de tout faux pas, de tout péché. Et ils ignorent encore un autre avertissement de l'apôtre Paul, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Constamment dans les Écritures, nous voyons cet appel à la vigilance, à un appel à lutter contre cet ennemi que nous avons en commun. Mais ce qu'il nous faut clairement comprendre, savoir, c'est que cet ennemi que nous avons est bien plus redoutable qu'il n'y paraît en surface. Beaucoup de gens négligent la puissance de l'adversaire. Beaucoup de gens négligent de voir comment il fonctionne, mais aussi de voir comment ils peuvent parer à ces attaques. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est que derrière toutes ces forces maléfiques, qui visent à neutraliser le chrétien, pire, à l'éloigner du Seigneur, derrière cela, il y a une personne, un être, Satan, l'adversaire, qui cherche par tous les moyens possibles à contrecarrer les plans de Dieu pour l'humanité, de contrecarrer l'œuvre de Dieu dans la vie des êtres humains, dans la vie des chrétiens, en devenant disciple de Christ par la foi, en devenant enfant de Dieu par la rédemption que nous avons reçue en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes devenus des cibles de choix pour l'ennemi. C'est une réalité. Et cela, c'est parce que Dieu nous a créés à son image, mais il nous a également régénérés, par l'œuvre de Christ sur la croix. Nous avons été régénérés, nous sommes devenus de nouvelles créatures à ses yeux, pour nous qui avons accepté la grâce de Dieu, qui avons demandé pardon pour nos péchés. Il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous devenons donc des cibles de choix. Pourquoi? Nous aimons regarder à l'histoire de l'Église et même dans les Écritures, à tous ces vaillants héros de la foi, n'est-ce pas? Et nous sommes émerveillés de voir des hommes accomplir des choses extraordinaires, pas forcément surnaturelles, mais extraordinaires par l'impact que leur vie a pu avoir à cause de leur foi. Et autant nous sommes émerveillés par cela, quelque part, on se dit, bah, Dieu, il ne pourrait pas faire ça dans ma vie. Et parfois, il y en a qui disent, oui, hey, Dieu, il pourrait faire ça dans ma vie. Seigneur, je suis prêt. Emploie-moi, utilise-moi pour ton service, pour ton œuvre. Peu importe où tu m'envoies, peu importe ce que tu m'as de faire, Seigneur, je suis à ta disposition. Et là, quand on a une personne comme cela, bah, vous pouvez être sûr que l'adversaire ne va pas être content lorsqu'un chrétien décide, choisit d'être obéissant, d'être soumis, d'être volontaire pour pour accomplir la volonté de Dieu. Mais voilà, à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous avons été appelés, nous avons été mobilisés hein, dans cette lutte spirituelle, mais nous avons aussi été équipés hein, par la grâce de Dieu. Dieu ne nous a pas laissé comme ça, allez maintenant vous allez vous battre sans nous donner d'informations, sans nous donner des armes pour nous défendre également. Mais la question ici, c'est êtes-vous prêt à ce combat? Êtes-vous prêt pour ce combat? Et parce que justement, avant d'aller à tout combat, un soldat doit avoir une formation, un entraînement, une préparation. Il doit être capable de repérer l'ennemi, de le reconnaître, de discerner ses tactiques, ses armes, et finalement d'employer le savoir qu'il aura acquis, d'employer les armes qui ont été mises à sa disposition. Et il en est de même pour le chrétien. Le chrétien, il est essentiel pour lui de bien comprendre à qui il a affaire, de bien comprendre les stratégies de l'ennemi, de bien savoir comment parer aux attaques de l'adversaire. Parce que c'est de ça que Paul nous parle ici. Donc permettez-moi ce matin, et comme j'ai dit probablement sur plusieurs dimanches, nous verrons diverses choses, mais de présenter ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet. De voir quelles sont les stratégies, les objectifs de l'adversaire, les moyens aussi que Dieu a mis à notre disposition pour nous défendre. Et la première chose que nous verrons ce matin, et Dieu voulant, pour les dimanches suivants, nous verrons différents aspects de l'ennemi, mais aujourd'hui, nous devons être prêts à combattre contre le menteur. Le diable, il possède toutes sortes de caractéristiques. Des caractéristiques qui sont complètement à l'opposé de celles de Dieu. Là où Dieu est saint, le diable, il est impur, imparfait. Là où Dieu est juste, le diable, lui, il n'en a rien à faire de ce qui vous arrive, que vous soyez maltraité, il n'a aucune justice. Là où Dieu est amour, le diable est pure haine. Là où Dieu est miséricordieux, le diable, vous mordra, vous mâchera, vous crachera et recommencera aussi souvent que cela lui plaise. Mais il y a une caractéristique qui le concerne, et malheureusement beaucoup de gens tombent dans le piège, c'est que si Dieu, là où Dieu il est la vérité, le diable, il est le menteur. Donc nous verrons d'abord quelle est la cible de l'adversaire, le but, mais aussi l'arme que Dieu met à notre disposition. Dans Jean chapitre 8 et verset 44, le Seigneur, il avait repris les gens en disant « Vous avez pour père le diable. » Ouf. Ainsi, vous avez des gens qui disent « Oui, Jésus, il est amour et il fait jamais rien qui va contrarier ou offenser les gens. » À mon avis, là, ceux qui ont entendu juste ces quelques mots-là, ils ont été pleinement offensés parce que Christ a déclaré. Et pourtant, c'était la vérité. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. La première chose qu'il nous faut voir, c'est que lorsque le diable emploie le mensonge, il cible quelque chose de bien précis. Il cible notre esprit. Lorsque le diable va mentir, c'est notre esprit qui est attaqué. On a un exemple, le premier exemple, dans Genèse chapitre 3, n'est-ce pas ? Genèse chapitre 3, lorsque le diable entre dans le jardin d'Éden, et va discuter avec Adam et Ève. Il va les séduire par quoi ? Le mensonge. Le diable a été rusé. Et Ève a été séduite par la ruse, par le mensonge du diable. C'est ce que d'ailleurs Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 11 et verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que quoi ? Que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Déjà là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu beaucoup la tête. en écoutant plein de discours différents concernant la personne de Christ. Et la crainte, et une crainte légitime ici de la part de l'apôtre Paul, c'était que leur pensée ne se corrompe. La simplicité à l'égard de Christ et les pensées corrompues par toutes sortes de mensonges. L'adversaire avait ciblé l'esprit d'Ève et lorsqu'elle tomba dans son piège, ses pensées se sont corrompues. Elle n'arrivait plus à discerner, à distinguer la vérité du mensonge à ce moment-là. On vit malheureusement à une époque où, pour beaucoup de choses, il est de plus en plus difficile de faire justement la part des choses, hein, dans les faits divers, dans les événements internationaux. Hein, les gens, généralement, hein, je veux dire, naturellement, hein, ils croient selon eh bien, l'accréditation qu'ils accordent, hein, à la source d'information qu'ils écoutent, ou selon les affinités qu'ils ont, hein, pour la personne qui partage une information avec elle. Et souvent aussi parce que ben, ces sources-là partagent déjà un point de vue que les personnes ont déjà, qui sont persuadées déjà, et « Ah tiens, lui, il pense comme moi, et on va écouter cette personne-là. » Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Mais sachez ceci, dans le domaine spirituel, parce que c'est de ça qu'il est question ici, dans le domaine spirituel, nous avons de quoi faire la part des choses. Nous avons de quoi démêler le vrai du faux en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne tout de la vie chrétienne. Nous avons la source d'information qui est vraie, qui est pure, qui connaît le cœur de l'homme et qui nous révèle qui nous sommes. Mais parmi les mensonges hein, qui sont peut-être les plus gobés hein, par le monde, on en trouve toutes sortes. Enfin, déjà, un, Dieu n'existe pas. Ou Dieu est indifférent. Ou on ne peut pas faire confiance à Dieu, il ne fait rien. D'autres vont dire, ben, Dieu, il est mauvais. Ou d'autres vont dire, ben, Jésus, il n'a jamais existé. Ou Jésus n'est jamais ressuscité. Ou encore le plus gros des mensonges que beaucoup de gens croient facilement, c'est on peut aller au paradis si on est assez bon, si on fait assez de bonnes choses. Mais il y a aussi parmi les chrétiens des mensonges qui sont crus. Des mensonges comme « Ah, je ne pourrai jamais avoir la victoire sur ce péché. » Ou bien « Je n'ai rien à contribuer à l'œuvre du Seigneur. » Ou bien, je ne suis pas assez, puis là vous mettez hein, l'excuse que peut-être vous avez accepté de croire dans votre vie, je ne suis pas assez quelque chose pour servir Dieu. Toutes sortes de mensonges au sujet de Dieu, au sujet d'eux-mêmes, au sujet du péché, au sujet hein, de la sexualité, du mariage, de la famille, de la société, tout. Mais par le biais du mensonge, il nous faut bien comprendre que l'adversaire donc s'en prend à notre esprit. Et la raison fondamentale pour cela, c'est parce que c'est à notre esprit que Dieu va s'adresser lorsqu'il va nous communiquer sa volonté pour nous. Lorsque nous lisons les Écritures et que nous voyons clairement ce que Dieu attend de l'être humain, ce qu'il attend clairement du chrétien, ce qu'il attend tellement de son Église, eh bien c'est à notre esprit qu'il parle. Et c'est dans notre esprit que la conviction va se former aussi par rapport à l'information que nous avons obtenue. Et si l'adversaire peut alors faire en sorte que le chrétien croit à ses mensonges, et à ce moment-là, il peut commencer à œuvrer dans sa vie pour le mener vers une rébellion envers Dieu. Et quand on regarde à Genèse chapitre 3, et je vous invite à y tourner juste pour qu'on ait encore à l'esprit bien clairement hein, les déroulements hein, de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, et nous verrons hein, comment le diable a agi, et nous verrons hein, qu'il y a des leçons importantes à retenir ici. Genèse chapitre 3, hein, le serpent, et c'est ainsi que le diable s'est présenté à Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et donc, ici, dans ce passage de Genèse chapitre 3, nous voyons effectivement comment l'adversaire s'est pris pour faire chuter l'homme et la femme dans la désobéissance, dans le péché. Et nous devons donc veiller à tout prix sur nous-mêmes, sur notre esprit, sur ce que nous laissons pénétrer dans notre esprit. Dans Deutéronome 4,9, justement, il y a cette mise en garde. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que, tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elle ne sorte de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et donc là, il y a cet avertissement par rapport au fait de veiller sur notre âme, veiller sur l'esprit également, mais de veiller sur notre âme, et la crainte, c'est d'oublier ce que nous avons pu voir et constater de vrai de ce que Dieu a accompli. Plus loin au chapitre 4, verset 19, là aussi, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, notez bien, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, là où il y a un avertissement, c'est parce qu'il y a un danger, n'est-ce pas? On ne va pas mettre un panneau en disant attention danger alors qu'il n'y en a pas. Mais là où il y a un danger, l'Éternel avertit les siens. La mise en garde, c'est donc de veiller sur notre âme, de veiller sur notre esprit, de veiller à ce que nous laissons, eh bien, pénétrer dans nos pensées. Et pour cela, il nous faut avoir du discernement pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que ici, la tactique que Satan emploie envers Ève, on voit que ça se déroule en plusieurs étapes, n'est-ce pas? Un, il a remis en question l'autorité de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et croyez-moi que même ce mensonge-là, là où il va chercher à semer le doute d'une manière aussi, bon, pour nous, on se dit, bah, ouh là là, comment ça, ils n'ont pas pu réagir à cela, de remettre en question ce que Dieu a dit. Mais combien de gens aujourd'hui, de chrétiens, d'églises, cherchent à remettre en question ce que la Bible dit sur des sujets où eux ils disent, mais moi je veux pouvoir faire cela. Et donc on va remettre en question ce qui est clairement mis noir sur blanc dans les Écritures. J'ai des personnes, même récemment, quelqu'un qui m'a contacté et posé plein de questions, mais il disait, est-ce qu'il faut vraiment mettre en application tout ce que Jésus a dit? Je crois que la base même, le fondement même du christianisme, c'est effectivement de mettre en pratique ce que Christ a dit de faire. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la vérité. À partir du moment où on a cette optique de est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Est-ce que sa parole enseigne vraiment cela? On a déjà mis un pas dans l'acceptation du mensonge. Ensuite, l'adversaire va même omettre une partie de ce que Dieu a dit. Il n'a pas tout dit ce que Dieu avait dit. Si on regarde un peu plus tôt, dans Genèse chapitre 2, j'y reviens, j'étais déjà revenu à mon passage d'Éphésiens, mais lorsque Dieu donna l'ordre à Adam concernant le fruit, l'interdiction, c'est verset 16, en Genèse 2, 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'adversaire, quand il va remettre en question ce que Dieu dit, il va pas tout rappeler ce que Dieu dit. Lorsque l'on le voit parler à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il n'a pas précisé l'arbre qui était interdit. Il n'a pas précisé non plus le fait que Dieu leur a quand même permis de manger de tous les autres arbres, des fruits de tous les autres arbres. Et ça, malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce panneau-là parce qu'ils ont le mensonge de Satan qui leur dit, tu devrais avoir ceci. Tu devrais avoir le droit de voir ceci. Et il nous fait oublier tout ce que Dieu a déjà pourvu. Et ce n'est pas le diable qui va nous rappeler cela. Il dit aussi le contraire de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit, si tu manges, quand, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Que dit l'adversaire? Vous ne mourrez pas. Donc il remet en question l'autorité. La réalité de ce que Dieu a dit, il omet une partie de ce que Dieu a dit, et finalement, il dit le contraire de ce que Dieu dit. Et finalement, en faisant cela, il a réussi à substituer son mensonge à la parole de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas de mensonge plus difficile à discerner que celui qui a été planté au milieu de la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous avez des l'adversaire, vous avez des gens qui vont prendre la parole de Dieu et enseigner des choses qui vont être correctes, mais en plein milieu de cela, paf, un petit élément de mensonge. Et l'amalgame, il est facilement fait. Le lien, il est facilement fait pour des personnes qui manquent de discernement, qui ne voient pas, qui n'ont pas réalisé que au milieu de la vérité qui a été enseignée, eh bien, il y a un mensonge qui a été dit. Et là, il substitue donc son mensonge à la parole de Dieu en disant, vous serez comme Dieu. Vous notez la différence quand même flagrante, une différence totale. Dieu dit, tu manges de ce fruit, tu meurs. Et le diable dit, vous serez comme Dieu. Mais Dieu, il est la vie. Et c'est ce même Dieu de vie qui a dit, tu manges de ce fruit, tu meurs. Tu n'auras plus cette vie. Et donc, ici, il fait donc passer Dieu. Pour celui qui est mauvais, pour celui qui est méchant, pour celui qui ne veut pas partager, n'est-ce pas? Qui empêche l'être humain d'accroître sa connaissance. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça me rappelle un débat entre un professeur, John Lennox, qui est un chrétien et qui est un apologiste également, mais il faisait face à un athée qui posait la question, pourquoi adorer un Dieu qui ne veut pas que l'humanité obtienne la connaissance? Parce qu'il a dit, mais vous êtes un homme de grande connaissance, etc. Alors comment se fait-il que vous adorez un Dieu qui empêche l'humanité d'avoir la connaissance? Et moi, j'étais choqué, parce que il a fait exactement un peu ce que le diable il a fait. Il a omis une partie du message, là, n'est-ce pas? Parce que cette connaissance dont il est question, c'est quoi? C'est cette connaissance du bien et du mal. Mais là, en l'état, Adam et Ève n'étaient pas aptes, n'étaient pas prêts à avoir cette connaissance-là. Mais ce détracteur, donc, a oublié, il a de spécifier qu'il s'agissait de la connaissance du bien et du mal. Il a usé du même stratagème que l'adversaire. Et il oublie de montrer la grâce de Dieu malgré le péché d'Adam et Ève. Vous savez, il y a les gens, ils ne veulent voir que Dieu en tant que juge et celui qui va appliquer la peine. Et même là où la grâce, elle est évidente, dans le même passage, où il y a une condamnation, c'est vrai, ils négligent de voir la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu les reprend. Et en les reprenant, c'est parce qu'il ne veut pas les laisser comme ça, s'en aller impunément, sans avoir compris ce qui venait de se passer. Il les responsabilise face à leur désobéissance, face à leurs actions, et il va les châtier. Oui. Mais voilà, seul un Dieu aimant ferait cela, n'est-ce pas? Proverbe 3:12 nous rappelle que l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il croit, qu'il chérit. Dieu également leur promet que malgré leur désobéissance et malgré le conflit dans lequel ils viennent d'entrer, ce conflit permanent entre les forces du diable et l'humanité, entre Satan et la femme, entre leurs postérités respectives, Dieu fait une promesse. Une promesse de victoire. C'est la grâce de Dieu ici. Ici, les théologiens appellent ce passage le proto-évangile, c'est-à-dire le premier évangile. C'est-à-dire qu'on a ici la première promesse, la première prophétie concernant eh bien, la grâce de Dieu qui sera manifestée en Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu où eh bien, la victoire sur le péché a été acquise. Il y a deux éléments jusque-là absents dans le jardin d'Éden et qui sont présentés comme fondamentaux même au christianisme, n'est-ce pas? Un, il y a la condamnation de l'humanité en raison du péché d'Adam, mais aussi la volonté de Dieu d'offrir un sauveur chargé de porter cette malédiction-là. La grâce de Dieu. La postérité de la femme, ainsi que toute l'humanité ici, eh bien, a la possibilité par la foi, eh bien, d'avoir la victoire. Là où le talon sera blessé et la tête du serpent sera écrasée, n'est-ce pas? C'est une promesse de victoire. C'est une promesse que, par amour pour nous et par grâce pour l'humanité, Dieu va régler ce problème du péché. Et malgré cette rébellion, Dieu manifeste encore de la grâce envers Adam et Ève. Il leur offre de quoi se vêtir pour qu'ils n'aient plus honte. Et là, très certainement, on a le premier sacrifice d'un animal pour couvrir le péché, pour couvrir les conséquences du péché. Et finalement, même en chassant Adam et Ève du jardin, nous voyons la grâce de Dieu pour eux. Dans Genèse 2:9, on a un détail important. Il est dit que Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait deux arbres uniques, deux arbres particuliers. L'un qui était celui de la connaissance du bien et du mal, celui qui était interdit, et il y avait l'arbre de la vie. Et là où moi je vois la grâce de Dieu, c'est que au chapitre suivant, au verset 22, lorsque l'Éternel dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Et là, et c'est ma position aussi, et c'est la position de beaucoup de théologiens et de commentaires bibliques sur la question-là, c'est ce que Dieu a fait, c'est d'empêcher l'humanité de rester de manière permanente dans cet état de péché. Et qu'il n'y ait plus de recours, qu'il n'y ait plus de possibilité de salut pour l'humanité. Donc là, oui, je vois la grâce de Dieu. Il empêche quelque chose de se produire, et nous, on pourrait pécer lorsque Dieu nous empêche de faire quelque chose, mais je veux ceci, mais là, Dieu, il va dire, non, je vais maintenant empêcher que cela se produise. Comme j'ai déjà souligné, l'Éternel a responsabilisé Adam et Ève en les mettant face à leur péché. Et il est intéressant de noter aussi, de voir comment Ève, oui, s'est laissée séduire par le serpent et qu'elle est entrée dans le jeu de l'adversaire. Parce qu'elle aussi, à un moment donné, quand on lit bien, eh bien elle a soustrait, elle a diminué la parole de Dieu. Parce que dans le texte hébreu, ce qui est intéressant, c'est que le verbe « manger », il est répété. Il est répété sous deux formes différentes. Et lorsque l'on a cette forme de syntaxe, il y a une intensification qui se produit. Et donc, lorsque on a ces deux verbes ensemble, une traduction, on va dire, plutôt littérale de ce que Dieu avait donné comme ordre, c'est « librement manger, tu pourras manger ». C'est-à-dire que Dieu, il a accordé une liberté. C'est-à-dire tu pourras, en fait, librement manger de tous les arbres. Mais qu'est-ce que Ève a dit? Elle omet cette nuance. Elle omet le fait que Dieu a permis cette grâce de pouvoir manger librement de tous les autres fruits. Mais elle a aussi ajouté à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Ève a dit, tu ne mangeras pas et tu n'y toucheras pas. Une grosse différence, n'est-ce pas? Alors vous me direz, il serait difficile de manger un fruit sans le toucher. Par contre, il est très possible de toucher un fruit sans le manger, n'est-ce pas? Et je crois que là aussi, il y a une leçon pour nous. Bien souvent, nous rajoutons, nous renforçons quelque part ce que Dieu a dit et nous mettons un poids supplémentaire, un fardeau supplémentaire sur nous-mêmes et parfois sur les autres parce que nous ne nous tenons pas à ce que Dieu a réellement dit, mais on se laisse distraire par le mensonge. Et on se laisse distraire par la réalité de ce qui avait été dit. Elle a fini par changer, hein, cette parole de Dieu. La pénalité ici de la désobéissance telle que Satan l'a présentée ne semblait pas aussi dure que celle que Dieu a dit. C'est pour cela que Ève pouvait considérer, hein, abandonner la volonté de Dieu pour obéir ici à celle de Satan. Mais voilà, lorsque l'on va traiter la parole de Dieu ainsi, lorsque l'on va ouvrir la porte pour que le mensonge du diable puisse pénétrer, la conséquence, elle est là. On finit par désobéir à la volonté de Dieu. On finit par oublier la volonté de Dieu. Alors c'est vrai que on a souvent tendance à pointer du doigt Ève ici. C'est elle qui a été séduite. Mais rien ne nous est dit sur la raison pour laquelle Adam a mangé du fruit également. Il nous est dit qu'elle a présenté le fruit à son mari et il en mangea. Mais je me suis posé la question, pour quelle raison? Alors, il y a toutes sortes de théories, etc. Et je ne vais pas chercher forcément à m'avancer là-dessus. Mais ce que je tiens à souligner quand même, c'est que dans ce passage de Genèse 2, où nous avons cet ordre qui a été donné, hein, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'avait pas été encore créée. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Adam lui aussi, peut-être, il a négligé de transmettre comme il faut la parole de Dieu? Est-ce que c'est lui qui a peut-être rajouté ces nuances de il ne faut pas y toucher? On ne sait pas. Mais pour moi, ça m'amène aussi à veiller sur moi-même, à faire attention. Parce que, comme on l'a vu dans ces passages de Deutéronome, nous sommes appelés à transmettre aussi à nos enfants. Nous sommes appelés à enseigner à nos enfants la vérité. Et si moi, je ne m'accroche pas à ce que la Bible dit, dans ma transmission de ce que je vais enseigner à mes enfants, eh bien, ça va ouvrir la porte à beaucoup de problèmes, comme ça a été le cas pour Adam et Ève. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un peu de ma réflexion, mais le plus important, et ce qui est évident ici, c'est que la ruse que le diable a employée pour semer le doute par rapport à la parole de Dieu, c'est évident. C'est évident. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Le but de l'adversaire, avec le mensonge, c'est de nous éloigner de la vérité, c'est de nous rendre ignorants de la vérité, ignorants de la volonté de Dieu. Hein, lorsque le diable porte ses attaques sur la parole de Dieu, il le fait parce que la parole de Dieu, elle nous présente en toute vérité et en toute simplicité la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. En dehors de la parole de Dieu, nous n'avons pas moyen de connaître la vérité. Alors oui, du fait que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, que nous portons en nous cette nature pécheresse qui nous a été transmise parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, que nous avons, nous aussi, hein, depuis ce péché-là, cette connaissance du bien et du mal, le fait est que cette connaissance du bien et du mal a été altérée par le péché. Cette connaissance même du bien et du mal elle devient de plus en plus floue, n'est-ce pas? Et nous sommes déjà arrivés à une époque où beaucoup de choses qui étaient mauvaises et clairement enseignées dans les Écritures comme étant mauvaises, aujourd'hui, c'est pas si grave. C'est même encouragé, n'est-ce pas? Et je ne parle pas forcément ici de personnes inconverties, je parle de personnes qui se disent chrétiennes. La volonté de Dieu, elle est exprimée dans les Écritures par rapport à qui nous sommes. Nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être extirpés de notre péché, pour être changés, transformés, n'est-ce pas? Mais la volonté de Dieu, elle s'exprime dans sa parole en nous montrant ce qu'est le péché. C'est clairement montré, c'est clairement défini. Mais l'adversaire, lui, il va venir, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça te concerne vraiment toi aujourd'hui au XXIe siècle? C'est un peu des choses du passé, n'est-ce pas? Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Dieu veut que nous ne soyons pas inconsidérés. Il veut que nous comprenions la volonté du Seigneur, comme Paul le rappelle dans cette même épître aux Éphésiens au chapitre précédent, chapitre 5, verset 17. Dieu veut que cette connaissance de sa personne, de sa loi, cette connaissance de cette volonté pour chacun d'entre nous remplisse notre vie et nous dirige. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 9, Paul dit « C'est pour cela que nous avons, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Et à la fin de son épître, au chapitre 4, verset 12, il parle d'Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à quoi? À faire toute la volonté de Dieu. Et donc voilà bien ici l'objectif des attaques de l'adversaire lorsqu'il va employer le mensonge. C'est de nous rendre ignorants de ce que Dieu veut pour nous. De cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite, comme Paul le rappelle en Romains. Faites la volonté de Dieu la priorité de votre vie. Et ce n'est pas un devoir qui est pénible. L'adversaire veut nous faire croire que c'est quelque chose de pénible. Mais comme nous le rappelle le psalmiste, c'est un délice. C'est aussi doux que le miel. C'est un délice pour celui qui ne se laisse pas leurrer par les mensonges du diable. C'est un délice pour celui qui reconnaît que ce que Dieu m'a déjà accordé, c'est extraordinaire. C'est une grâce merveilleuse. Pourquoi est-ce que j'irai chercher encore ailleurs? Et si Satan parvient à rendre le chrétien ignorant de la volonté de Dieu, et c'est alors qu'il va le dérober de toutes les bénédictions que Dieu a prévues aussi pour cette personne. C'est là où le chrétien, eh bien, il finit par prendre les mauvaises décisions, qui va s'impliquer dans des activités pécheresses, qui va se bâtir une mauvaise vie. Et le plus triste dans tout cela, c'est qu'il influence les autres dans son entourage. C'est l'effet de la pomme pourrie au milieu de pommes saines, n'est-ce pas? Vous laissez une pomme pourrie au milieu de pommes saines, qu'est-ce qui se passe? Très vite, les autres pommes vont pourrir avec. C'est pour ça que nous sommes appelés à veiller, veiller sur notre âme, sur notre esprit, mais aussi de veiller sur les autres, d'être une exhortation, d'être un encouragement, d'aider le frère, la sœur, lorsque nous voyons que il est dans le péché, ou il se laisse entraîner vers le péché, et qu'il faut intervenir. Quand un chrétien est ignorant de la volonté de Dieu pour sa vie, il ne va pas trouver le plaisir en Dieu. Il va pas connaître la joie et la paix et le plaisir d'être dans cette relation avec le Seigneur parce qu'il s'est laissé détourner par le mensonge. L'idée, c'est que même si, comme l'Écriture nous l'enseigne, nous ne perdons pas notre salut, nous perdons toutes les bonnes choses que Dieu avait prévues. C'est au lieu de voyager en première classe, on se retrouve tout à l'arrière. On se retrouve spirituellement appauvri. parce qu'on s'est séparé de la richesse que nous avons en Dieu et dans sa parole. Mais quel est le recours ici? Quel est le recours pour nous afin de connaître la vérité, de lutter contre le mensonge de l'adversaire? Laissez-moi citer deux versets qu'on connaît bien, on en a fait même des chants. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, qu'est-ce qui va permettre à une personne de continuer dans la pureté du salut qui lui a été accordé? Comment est-ce qu'il va faire en sorte que sa vie soit définie par « Moi, je veux servir l'Éternel, je veux le glorifier, je veux que ma vie puisse l'honorer en toute chose. » En se dirigeant d'après ta parole. Si on se laisse mener par le mensonge et qu'on oublie d'être dirigé par la parole, vous pouvez être certain que ce sentier de pureté qu'on recherche va vite être perdu de vue. Plus loin, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et là, le psalmiste, il établit le lien que nous devons avoir avec la parole de Dieu. Là où l'adversaire va nous dire « C'est pénible, c'est fastidieux », la parole nous dit « Non, quand tu t'y appliques, c'est ton secours. » C'est la vie. C'est ce qui va t'empêcher de pécher contre l'Éternel. Et pour cela, ce lien, c'est « Je serre ta parole dans mon cœur. » Cet amour pour la parole de Dieu. Mais cette proximité aussi qu'elle doit avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que Dieu « Oh oui, je connais certains préceptes et principes, et puis bon, je vais faire un peu d'effort pour m'y tenir, etc. » Non, il s'agit d'avoir cette intimité avec Dieu dans la parole. Pour ne pas pécher, pour ne pas être leurré par le mensonge. Et donc notre allié ici, ce qui va nous aider dans notre vie à pouvoir avoir la victoire contre le mensonge, c'est la parole de Dieu. Notez bien le verset 14 que nous n'avons pas lu dans ce passage d'Éphésiens 6, là où Paul il va commencer à décrire cette armure spirituelle que Dieu a fournie pour le chrétien. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. » Pour ceinture. C'est ce qui nous maintient droit. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Seule la parole de Dieu peut révéler et vaincre les mensonges de l'adversaire. Comprenez bien qu'on ne peut pas raisonner avec le diable. Le diable est beaucoup plus intelligent que n'importe lequel d'entre nous. Et même si on accumulait toute l'intelligence de la race humaine depuis des siècles, ça ne vient pas encore à la cheville de l'intelligence de l'adversaire. Comprenez bien cela. Et c'est pour cela que Dieu nous montre que le moyen pour nous de pouvoir lutter contre l'adversaire, c'est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur lui-même affronta l'adversaire au milieu du désert, c'était un combat spirituel. Et c'est un combat qui a été gagné non pas parce que Jésus il est Dieu, mais c'est un combat qui a été gagné parce que Jésus a employé la parole pour contrer les attaques de l'adversaire. Et c'est le schéma, c'est l'exemple qu'il nous donne pour nous. Le diable, il a employé les mêmes tactiques, il a employé les mêmes ruses. Mais c'est cette parole de Dieu qui a été l'arme défensive que le Seigneur a employée. Dans Matthieu 4, nous avons donc le descriptif de ce récit. Le Seigneur, il était dans, humainement parlant et physiquement parlant, dans une situation de faiblesse. Ça faisait 40 jours qu'il était dans le désert. Il avait faim, nous dit Matthieu. Et c'est là où l'adversaire y vient, dans le moment de faiblesse. C'est là où il va attaquer. C'est là où il va remettre en question la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, bien ordonne que ces pierres deviennent des pains. La réponse de Christ à chaque attaque. Il est écrit. Il est écrit. Ne croyez-vous pas qu'à ce moment-là, le Seigneur aurait pu tout simplement dire « Arrière de moi, Satan ». Il aurait pu simplement faire cela. Il aurait pu utiliser son autorité et sa puissance pour chasser le diable, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pour nous montrer la puissance de la parole. Il est écrit. Et à chaque fois que le diable a attaqué, le Seigneur a répondu par la parole. Et c'est ça que nous devons faire. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes attaqués, lorsque les doutes sont semés dans notre esprit, nous devons revenir à la source, revenir à la parole de Dieu et l'employer pour combattre l'adversaire. Mais notez bien que l'adversaire lui-même aussi, il connaît la parole de Dieu. Parce que dans ce moment-là, il va au verset 6. Encore une fois, dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Sachez une chose, c'est que l'adversaire connaît mieux la Bible que vous. Et il va l'employer. Il va l'employer de manière orientée. Il va l'employer de manière à nous détourner. Mais là encore, Jésus lui dit, il est écrit. Et à l'attaque de l'adversaire, il lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et finalement, c'est là où nous voyons le Seigneur dire, adversaire, retire-toi Satan, car il est écrit. Christ n'a pas employé sa puissance divine pour chasser l'adversaire. Il a répondu à chaque attaque par la parole de Dieu. Mais voilà, si nous négligeons de lire la parole, si nous négligeons de l'étudier, si nous négligeons de la méditer, notre connaissance du bien et du mal va devenir aussi floue que celle d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Si nous négligeons cela, l'adversaire, il pourra venir et attaquer avec ses mensonges, et vous aurez beaucoup de difficultés à répondre à cette attaque parce qu'on aura négligé et oublié la parole de Dieu. À ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si notre vie spirituelle ne porte pas de fruits, si nous n'avons pas de victoire sur la chair, sur le péché. Mais par contre, si vous voulez avoir cette victoire, vous devez être prêt à combattre le bon combat de la foi. Vous devez être prêt à combattre le mensonge par la vérité. La parole de Dieu est la vérité. 1 Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Elle est la vérité. Là où il est important de lire et d'étudier la parole de Dieu, c'est pour nous donner ce discernement, de voir le vrai du faux. Quand on connaît la vérité, on sait ce qui est faux. Hein, pour ceux qui ont peut-être travaillé dans un commerce et que vous avez été à la caisse, très certainement, on vous a dit, faites attention, il y a des faux billets. Il y a des faux billets. Et on vous enseigne à reconnaître la différence entre un vrai billet et un faux. Mais si nous n'avons pas cet exemple de la vérité, comment est-ce qu'on va savoir ce qui est faux? Comment est-ce qu'on peut déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux si on n'a pas la source de la vérité? La parole de Dieu est la vérité, Christ est la vérité, Dieu il est vrai. Et si nous voulons donc avoir la capacité de discerner le vrai du faux afin de ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire, il faut que nous ayons cette proximité, cette intimité avec Dieu et sa parole. La parole de Dieu nous apporte un enseignement riche, un regorge d'exemples de personnes dont on peut s'inspirer. On a des modèles qui sont positifs, mais il y a aussi des modèles qui sont négatifs, qui nous aident à dire, ouais, non, je ne vais pas suivre ce chemin-là. Hein, j'ai vu ce qui s'est produit. C'est pas juste un livre à lire comme ça, simplement. C'est un livre à méditer et à vivre. Quand on considère la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, comme étant la vérité, comme étant cette première arme que Dieu met à notre disposition, cette ceinture de la vérité, nous ne pouvons pas négliger l'avertissement, les avertissements que Dieu nous donne. Si on considère la Bible juste comme un autre livre, comme, ah tiens, ça nous donne quelques bons principes de vie, ben c'est comme si on prend de la nourriture, on la mâche, mais on la recrache. On la laisse pas agir, on la laisse pas être cette source de nutriments, cette source d'énergie pour notre vie. Étudier la parole de Dieu devrait être pour nous comme chercher de l'or. À qui irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Si on cherche de l'or et on ne fait pas d'effort, si on se contente quelque part de juste tamiser quelques cailloux au bord du ruisseau sans aller creuser quelque part pour voir ce qu'il y a dans une mine, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on ne trouve que des poussières d'or. Moi, j'aime bien, de temps en temps, il y a un documentaire, un reportage sur un chercheur d'or quelque part ici et là, et puis on les voit au bord d'une rivière, et puis ah, ils sont tout contents parce qu'ils voient quelques poussières d'or. Mais même si on comprend que ça a de la valeur, c'est surtout le cumul, l'accumulation de cette poussière d'or qui va avoir une valeur. Mais comprenez bien que ça va prendre du temps pour accumuler assez de cette poussière d'or, même pour couvrir les dettes et les investissements pour le projet d'avoir cherché de l'or. Mais si nous y allons, nous allons creuser et creuser profondément, c'est pas de la poussière qu'on va trouver. Ça va être des pépites. Et plus nous nous efforçons de l'étudier et de la mettre en pratique dans notre vie, plus nous allons aller profond dans la parole de Dieu, plus cet effort sera récompensé. Mais aussi, nous aurons tout ce qu'il y a Dieu, tout ce que Dieu a pourvu, a mis à notre disposition pour vivre une vie victorieuse. Et ça commence par connaître la vérité, afin de reconnaître quand le diable vient avec ses mensonges et qu'on puisse dire, ah, stop, c'est écrit. C'est écrit ça, c'est écrit ça, c'est écrit ça. Non, non, stop. Résistez au diable, c'est comme ça. Résistez au diable, il fera de lui un de vous. La manière la plus forte et la plus efficace de résister au diable, ce sera toujours de dire, Dieu a dit, il est écrit. Prions.